L'image de l'église de Châtenay-Malabry, c'est peut-être celle-là que je choisirais. Alors, ça fait la une de Christ seul, hein. Donc vous pourrez regarder. C'est vrai que c'était une photo qu'on a prise au moment du culte de consécration de quatre personnes dans des ministères de la parole et de la communion. Et c'est vrai que c'est un petit peu un reflet d'une partie de notre église. Alors, on voit des personnes handicapées au premier rang. Et ça, c'est vrai que c'est un héritage de tout le travail de l'association des Amis de l'Atelier. On a les incontournables mamans d'Afrique, là, les trois dames que vous voyez avec leur beau boubou. Là. Alors, il y en a une qui vient de Côte d'Ivoire, Dorothée. Il y a Berthe qui vient du Congo Kinshasa. Et puis Geneviève du Congo Brazzaville. Derrière, vous avez Kersia qui est haïtienne. Jenny qui est issue des États-Unis. Et puis aussi pas mal de jeunes et d'enfants. C'est vrai que finalement la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui rassemble toutes ces personnes, qu'est-ce qui fait leur joie commune en ce jour et tous les jours. Alors, ça serait facile de dire que ces personnes sont en communion. En communion, ça veut dire qu'effectivement, elles ont un héritage, une part commune, reçue dans une même foi au Christ. Il me semble que cette communion, c'est justement ce qu'on peut vivre dans l'église et ce qu'on peut vivre en premier lieu dans une église locale. Et donc, je dirais qu'à partir de ça, l'église locale va devenir le lieu où on apprend à discerner, à aimer, à s'attacher à celui qui nous rassemble, qui est le Christ. Alors, c'est vrai que ce matin, là, Michel terminait en disant, et puis il y avait cette question autour de dire, finalement, on a tous la même Bible. Qui nous donne le même projet, mais après, il s'agit de le traduire et de le mettre en œuvre. Et c'est vrai que c'est souvent là-dessus qu'on a un petit peu des différences, des points de vue à ajuster et sur lesquels s'accorder. C'est vrai, une chose, c'est dire le Christ nous rassemble, une autre chose, c'est traduire cette réalité dans notre vie d'Église. Alors, ces dernières années, en tout cas à Châtenay-Labry, ce sur quoi on a essayé de beaucoup travailler, c'est de réfléchir à la fois à notre projet, à notre projet commun, et puis aussi à notre identité. Quelle est notre identité? De quoi est-ce qu'on est fait? Et puis, quel est notre projet commun? Est-ce que ce projet est facilement identifiable? Comment nos structures, nos activités mettent en valeur ce qu'on croit et ce qu'on essaye de vivre? Quelle lecture en ont les personnes qui sont extérieures à notre communauté? Et je crois que ce qu'on a vraiment essayé de trouver, c'est des lieux où on a pu parler et mettre en œuvre notre projet, élaborer un projet, notamment au travers des week-ends d'église, au travers des moments de partage, et puis aussi un gros travail qui s'est fait dans le conseil d'église. On a essayé de réfléchir à toutes nos structures qui, indirectement, nous posent la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, si je devais essayer de le formuler aujourd'hui, ce projet, en une phrase, je dirais voilà ce qu'on essaye de faire, de dire, nous sommes une église mennonite, urbaine, multiculturelle, sensible aux dimensions d'accueil, de communion, de service, de réconciliation, de paix et de justice que nous discernons au cœur de l'Évangile. Alors, je dirais, ça a l'air de rien une phrase comme ça, mais je dirais là, on a à peu près la quintessence de 3-4 ans de travail. Et vous dites, peut-être que, ok, pourquoi pas, non, ça pourrait être autre chose. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, courant janvier, on a un jeune couple qui arrive, et puis il arrive lors du dimanche de la Fraternité Mennonite Mondiale. J'espère que vous le célébrez tous. Alors, comme chaque dimanche, on accueille les nouvelles personnes, on leur demande de dire un petit mot, ils disent, on vient d'arriver en région parisienne, on a une mutation professionnelle, on cherche une église et on fait le tour. Alors, le dimanche d'après, ils reviennent. Alors, je me dis, ça a dû vachement leur plaire. Il me dit, non, en fait, on était trop tard pour aller dans les autres églises, le culte est à 10h, ou c'est 10h30, donc on revient, mais ça veut rien dire. Alors quand même, la tradition méno oblige, on les invite à manger à la fin du culte, on discute avec eux, on parle, église, ministère, nos origines, il se trouve qu'il y en a un qui est alsacien aussi, puis on va faire une balade, et puis évidemment, on pose des questions, et puis à un moment, finalement, la question que presque chacun me demande, c'est, est-ce que vous faites de l'évangélisation ici? Oui, nous les Mennonites, on essaie de vivre ensemble l'Évangile, on porte attention à nos relations, on prie pour notre monde, on essaie d'agir pour la justice et la paix et de mettre en œuvre tous les projets qui sont porteurs de cette dimension. Et puis le jeune homme, il me dit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi justement entre ce dimanche de la fraternité et puis le dimanche où il était revenu, à ces valeurs que vous affichez clairement de communion, de paix, d'amour, de respect et de non-violence. Il dit, moi je dois vraiment réfléchir à comment je me positionne par rapport à tout cela. Et je lui dis, bah écoute, oui, tu as raison, ça c'est des éléments importants pour nous. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, on sera vraiment content de vous accueillir. Mais sachez que ce qu'on cherche à vivre, c'est une communion importante, des relations apaisées, qu'on va articuler toutes nos activités autour de ce désir central. Je dis, voilà, on prend un repas ensemble par mois, on fait des très grosses fêtes, comme on en fait rarement. À Noël dernier, on a fait 3 jours la fête, donc c'était assez intense. On prie aussi les uns pour les autres, et puis on met beaucoup d'énergie à transmettre tout ce qu'on croit aux enfants, aux jeunes et aux ados, parce qu'on a beaucoup une proportion importante d'enfants par rapport au nombre d'adultes, quoi. Et puis on milite pour la paix, par exemple, quoi. Et puis ben voilà, alors on les a plus revus pendant 2 mois et fin mars ils sont revenus là et ils nous ont dit ben voilà, je crois que notre choix est fait, on va venir ici. Alors on attend de voir comment ça évolue. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça important de pouvoir, peut-être même une première réponse, pouvoir dire écoute. Clairement, voilà ce que nous, on essaye de faire. C'est notre projet, c'est l'axe structurant de ce qu'on essaye de vivre. Maintenant, à vous de voir si c'est dans cette dimension-là que vous voulez entrer ou si c'est quelque chose de complètement différent que vous recherchez. Un autre exemple, un couple un peu plus âgé, là, qui m'a écrit par email, ils ont commencé à se renseigner sur les Mennonites, ils se trouvaient très attirés par toutes justement ces valeurs de paix, de communion, de non-violence. Et puis, voilà, ils me disent, on veut devenir membre de votre église. Alors je dis, bah, écoutez, venez d'abord au culte, commencez à venir, ils viennent une fois, ils viennent une deuxième fois. Ils me disent, c'est vraiment super chouette, c'est très bien, on va venir chez vous. Alors ils me disent, on est dans une autre église, il faut d'abord qu'on mette un peu tout ça en œuvre pour quitter, puis on vous rejoint, quoi. Et puis, j'entends plus trop parler, puis un soir ils me téléphonent. Et ils me disent, alors on a un problème, parce qu'on a vu là dans votre programme d'église que vous faites des rencontres avec les catholiques. Alors je dis oui, on accueille, c'est vrai, une fois par mois, le groupe de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et on essaye de prier avec des catholiques, aussi des protestants, pour les personnes qui sont torturées dans le monde. Et puis la dame le questionne, me dit, mais enfin, comment vous pouvez prier avec des personnes qui n'ont pas la foi? Alors, je pense à cette dimension d'accueil que tu soulignais ce matin, je dis, mais bon, écoutez, voilà, enfin, en tout cas. Nous, on n'a pas le monopole de la foi ni de la compassion. Voilà, cette action a du sens pour nous. Nous, on a dans notre projet un désir de réconciliation, de venir au secours des plus démunis. On pense que ce groupe poursuit cet objectif. Ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on veut essayer de vivre et de faire. Alors, on reste là. En tout cas, je crois que ça ne leur a pas plu, hein, parce qu'ils nous ont annoncé que bon, finalement, ils ne vont pas nous rejoindre, ils vont poursuivre là où ils sont. Et je pense que bon, ça doit être dans une église où ils n'aiment pas trop les catholiques. Mais quelque part, là, c'était une réponse un peu excluante. C'était une réponse qui disait, mais écoute, quelque part, mieux vaut éviter les malentendus. Si vous voulez nous rejoindre, ben, sachez qu'en tout cas, même si on a une Bible qui permet beaucoup de possibilités, ben, nous, on a choisi des axes d'interprétation, de mise en œuvre de ce projet qui sont assez clairs. Et dans ces axes-là, ben, voilà, en tout cas, cette possibilité de prier avec d'autres confessions est présente. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, si c'est un élément vraiment limitant et freinant, ben, peut-être autant ne pas faire chemin ensemble. Donc, ceci pour dire que, à mon avis, une fois qu'on a bien élaboré un projet, on a bien réfléchi à ce qu'on souhaite être, vivre et faire, ce projet devient lisible à l'extérieur parce qu'il va être traduit en actes. Si l'identité de notre projet n'est pas claire, si quelque part on a des actions qui fusent un peu dans tous les sens, là je pense que effectivement ça va être difficilement lisible pour des personnes qui viennent de l'extérieur et pas facile de s'intégrer. Par contre, si notre identité est claire, bien connue, affirmée, et un projet d'église assez bien défini et cohérent, il me semble que du coup les actions qu'on va choisir de faire, ben, auront une certaine cohérence et harmonie et témoigneront d'une certaine unité. Par exemple, je vais essayer d'illustrer justement ce projet, quelques témoignages, hein, essayer de partager plus des expériences. parlons ce que veut dire pour nous Mennonite. Alors Mennonite, c'est justement la dame responsable de la CAT qui vient me trouver il y a 3 ans, qui me dit, écoutez, je viens vous trouver parce qu'on m'a dit que les Mennonites, c'est des gens très bien. Alors je me dis, bah tiens, c'est quand même pas mal, plutôt toujours cacher qu'on est Mennonite. Et quand vous vous dites, tiens, on affirme Mennonite, et puis quelqu'un vient vous trouver en disant, j'ai entendu que c'est des gens très bien, vous dites, bah tiens, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, quoi. Alors bon, il y en a d'autres qui disent, ah bah je croyais toujours que c'était une secte américaine, mais en tout cas c'est quelque chose d'intéressant. Et puis cette dame, elle a commencé à entrer en contact avec nous, elle a beaucoup suivi tout ce qui était un peu les suites de l'affaire Sayed Moussa, ça l'a beaucoup intéressée justement dans le cadre des actions de la CAT. Elle a aussi regardé un petit peu tout ce qu'on fait au travers des actions de la caisse de secours. Et puis à la dernière réunion, elle me dit la chose suivante, elle me dit, vous savez, moi je suis catholique parce que c'est comme ça, quoi, d'origine je suis catholique, mais quelque part, puis bon, elle n'a pas osé poursuivre plus loin, mais je crois qu'elle avait envie de dire, quelque part, voilà, dans ce que vous faites et comment vous essayez de le mettre en œuvre, je m'y retrouve tout à fait, quoi. Et elle vient au culte maintenant une fois tous les 2 mois à peu près, alors pour assister, pour faire aussi le lien entre différentes communautés, et je pense parce que quelque part, elle se retrouve aussi en partie dans ce projet qui met en avant, un souhait et un souci pour les plus démunis. Multiculturel, alors ça c'est un témoignage de Julio. Julio, c'est un jeune malgache qui a un peu moins de 30 ans et puis qu'on a consacré prédicateur. Et lui, il a dit, ben voilà, dans mon église à Madagascar, on ne m'aurait jamais confié un tel ministère. Donc quelque part, c'était l'idée de dire, si on veut être une église multiculturelle, si on est une église multiculturelle, qu'on le soit aussi au niveau, et puis c'est ce que Michel disait, au niveau des responsabilités. Et quelque part, ce jeune, il a été touché du fait qu'on puisse le consacrer comme prédicateur, peut-être malgré son jeune âge, là où il pense que même dans son église d'origine, son âge aurait fait obstacle. Donc quelque part, il nous dit, c'est vrai, vous m'avez proposé une place qu'on ne m'aurait peut-être pas proposé dans mon église, même à Madagascar. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de discerner, de dire, on est multiculturel, on l'est aussi au niveau de notre conseil pastoral et notre conseil administratif. Mention d'accueil. Tony, un Antillais, a dit, au cours d'une culte partage, on fait pas mal de cultes justement témoignages, où on en a posé un et aux autres s'exprimer, il dit, mais dans cette église, vous m'avez fait confiance. Et Tony, c'est un homme mûr qui a un peu plus que la cinquantaine, qui a fait 3 années d'études à Nogent-sur-Marne, et il a fait pas mal d'églises, et il m'a dit, dans toute l'église où je suis allé, on m'a jamais vraiment demandé, à chaque fois que j'ai essayé de faire des choses, on m'a dit, non, écoute, ça on veut pas te le laisser faire, c'est nous qui allons reprendre la main, on te fait pas trop confiance. Alors ça c'est sa version, peut-être qu'il y a un côté un petit peu victime. Mais je crois qu'en tout cas, on a essayé de lui dire, écoute, on veut essayer de te faire confiance. On lui a proposé de participer à l'enseignement d'un catéchisme pour adultes qu'on a mis en place. Et puis, chemin faisant, on lui a dit, écoute, tiens, pourquoi tu ne ferais pas une fois une présidence de culte? Et puis récemment, on lui a demandé aussi de prêcher pour la première fois. Et quelque part, voilà, c'est quelqu'un qui a une situation pas facile, mais il a dit, ok, ici c'est une église où vous m'avez fait confiance. Et je trouve... Ouais, quand quelqu'un dit ça, c'est quelque chose d'assez fort. Alors la communion, c'est peut-être la dimension la plus forte, tout ce qui est notre partie commune. Il y a un jeune Congolais d'origine catholique qui a rejoint notre communauté cette année. Et puis, à Noël, on a fait une grande fête, je dis 3 jours, et le 3e jour, c'est la fête avec les résidents des amis de l'atelier. Et en fait, on demande aux jeunes de préparer un beau repas, une belle table, quelques chants et une belle soirée à passer avec des résidents de l'ami de l'atelier. Et ce Mopeko, il m'a dit, il est venu me voir à la suite de cette soirée, il a dit, mais tu sais, ça c'est un des 3 ou 4 moments de ma vie où je me suis senti pleinement heureux. Elle dit, avec ces personnes handicapées, avec ces jeunes, autour de ces chants, de ces repas, de cette annonce de la naissance de Jésus, il a dit, il y avait quelque chose d'extrêmement fort que j'ai pas vécu auparavant. Et je me disais, oui, c'est vrai, ça vaut le coup de réfléchir justement à des actions qui sont tourner aussi autour des moments forts de notre vie, qui sont les moments de fête, et puis de demander aux jeunes de, voilà, de mettre ce qu'ils ont de plus beau, de meilleur, pour préparer une belle table, des beaux chants, et puis quelque chose qui leur donne aussi l'occasion d'accueillir et d'inviter. C'est une idée de communion, il y en a d'autres. À la fête de Noël, par exemple, on propose à toutes les personnes qui restent, on fait aussi un grand repas pour toute l'église. Alors il y a 130 couverts là, et puis les gens amènent des habits, on mange. Et puis on propose simplement, pendant le repas, de dire, bah, écoutez, voilà, maintenant, si vous voulez, on vous donne un petit papier, papier de communion, on va inscrire un nom dessus, et puis pendant toute cette année, vous serez chargé de prier pour cette personne. À vous de voir comment vous voulez le faire, comment vous voulez entrer en relation avec elle, définir à quelle fréquence vous priez, si c'est juste une prière générale ou si vous prenez des nouvelles. Et en tout cas, il y a un système comme ça d'échange qui fait que les gens s'engagent à prier l'un pour l'autre pendant une année, et puis c'est une occasion de découvrir une personne. Notre projet, c'est vrai que le service, c'est une dimension importante, à mon avis, de ce qu'on essaie de vivre. On est 57 membres actuels, et puis j'ai fait le point, il y en a 47 qui ont quand même une responsabilité précise. Alors je ne dirais pas que c'est parfait pour tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui le fait bien, loin de là, mais en tout cas, je crois que quelque part, par cette volonté, on dit, ben, voilà, c'est dans notre projet que quelque part Dieu nous appelle à répondre, à nous offrir et à être actif à son service, donc ben, on va déléguer des responsabilités et demander, en tout cas, à tous ceux qui deviennent membres de prendre une responsabilité. Je crois que c'est vrai que le modèle biblique est construit, à mon avis, sur une structure d'appel-réponse, où Dieu appelle et l'homme répond. Et si on n'offre pas de possibilité de répondre et d'apporter notre offrande à Dieu, bah, quelque part, on laisse difficilement les gens s'intégrer dans le projet que Dieu a pour les hommes. Jenny a beaucoup travaillé, justement, pour réfléchir et réorienter nos cultes, pour que nos cultes laissent de la place aux uns et aux autres, pour pouvoir s'exprimer, s'offrir à Dieu. Je prends un exemple très concret. On a une dame qui est d'origine pentecôtiste, qu'on a accueillie comme membre, elle s'appelle Dorothée, et puis au cours des entretiens qu'on a avant, elle me dit, bon, l'église globalement ça va, ça me plaît, mais elle me dit, il n'y a pas beaucoup de prophéties ici. Alors je dis, alors tiens, qu'est-ce que tu entends par prophétie? Alors elle dit, ben voilà, des gens qui parlent de Dieu, qui annoncent des choses. Alors je décide de dire, ben voilà, tu sais, nous on a aussi la prédication, c'est aussi une annonce de Dieu, et puis on a aussi des parties de témoignage. Et puis, ben écoute, si tu veux, il y a des moments où tu pourras témoigner aussi. Et du coup, on lui a laissé de la place pour qu'elle puisse témoigner. Et c'est vrai que je pense que peut-être ce qu'elle avait l'habitude dans d'autres églises de prendre comme une place de prophétie, ben elle a pu l'avoir ici en ayant une place de témoignage. Et je crois que vraiment, quand elle parle, tout le monde écoute, parce qu'elle est ivoirienne. Elle nous a beaucoup parlé de ce qui se passait en Côte d'Ivoire pendant toute cette période de guerre. Elle nous a parlé de son mari qui est là-bas, et voilà, qui a essayé de, justement, d'apporter la paix dans des moments où il y avait des gens avec des armes devant lui, où il avait un fusil pointé sur lui. Et puis elle nous a parlé de ce que Dieu fait dans sa communauté. Et quelque part, elle ne m'a plus jamais reparlé qu'on manquait de prophétie ici. Je crois que le fait que les uns et les autres puissent exprimer ce qu'ils vivent avec le Seigneur, qu'ils aient un lieu pour le faire et que ce lieu soit le lieu du culte, lui convient et traduit son désir finalement que les uns et les autres puissent parler de ce que Dieu est en train de faire. Ouais, vraiment cette idée de dire, bah, tiens, si le culte devient le lieu d'expression, le lieu d'offrande, le lieu où les uns et les autres puissent apporter ce qu'ils sont, alors on est dans cette dimension du service. Réconciliation, on va mettre en place un parcours elle et lui, donc un parcours pour couple, et en plus on le fait avec les catholiques. Alors je crois que c'est une double mention de vouloir avancer dans une partie de réconciliation. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas facile, on va voir ce que ça donne, mais on essaye. Et puis je crois que ça répond aussi à quelque part un de nos couples qui avait vraiment, depuis des années, demande est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec d'autres confessions chrétiennes. Et je crois que bah, c'est aussi répondre à quelque part accéder à une de leurs demandes. quelque part, à mon avis aussi, pour être intégrantes, nos églises doivent offrir de la place pour que les uns et les autres puissent vraiment apporter ce qu'ils sont et leurs dons. On a un projet de construction actuellement. Il y a une des personnes qui est responsable qui s'appelle Emma. Et elle, elle a dit, mais vraiment, c'est la période de ma vie où je m'éclate à l'église. C'est un projet où vraiment, elle s'éclate, quoi. Et puis, c'est marrant parce que me dit, bah, c'est vrai, pouvoir apporter ses dons, c'est pas toujours évident. Parce que si l'église, c'est juste la prédication et la louange et qu'on n'a aucun de ces deux dons, bah, on va être un petit peu coincé. Mais si tout d'un coup, tiens, quelqu'un qui a des dons de négociation, de commerce, peut vraiment trouver une utilité, un don et une valorisation, bah c'est aussi quelque chose de très fort. La dimension de paix qui est chère à nos églises mennonites. Un témoignage là, du directeur de l'école où va notre fils. Il dit, vous me donnez l'impression de Jean paisible. Il est venu deux fois, une fois à la soirée de Noël et une fois à la soirée avec Jacques et Ariane Iriart. Alors lors de cette soirée, après l'exposé de Jacques et Ariane, lui prend la parole et dit, en fait, mon épouse est musulmane et je crois que l'islam est aussi la religion de l'amour. Alors là, Jacques, il le regarde et dit, non, moi je crois pas. Il dit, je suis désolé, mais je crois pas. Puis là, dans l'assemblée, ça commence à se tendre. C'était une soirée ouverte, on avait invité, on a fait de la pub dans le quartier, venez, une soirée à Kaboul, pâtisserie afghane et compagnie, ça va être sympa. Alors il y a ceux qui sont de l'assemblée qui disent non, non, il y a les autres qui disent ouais, ouais, bon, etc. Bon, Jacques a très bien géré le truc, il s'est retombé sur ses pattes. Le lendemain, c'est l'affaire Mohamed Mera qui éclate. Et puis trois jours après, je croise le directeur, puis là, il me regarde et me dit, vous savez, en fait, j'ai réfléchi, mais vous avez raison, il y a vraiment une grande différence entre l'islam et le christianisme. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé il y a trois jours là, à la télé. Enfin, c'est incroyable, quoi. Dites-moi plus sur les Mennonites, vous me donnez l'impression de gens paisibles. Et il me dit ça comme ça, je commence à parler. Et puis après la discussion, il me dit, moi, je viendrai vous voir un jour. Est-ce que je peux venir vous voir? Ça m'intéresse, discuter avec vous. Alors, je dis, écoutez, pas de problème, maintenant, il faut que je le relance. Justice, bon, peut-être aussi l'aspect de paix. On a une jeune couple qui nous a rejoint il y a quelques années. Elle est instite. Et puis elle a été tellement façonnée et étonnée par nos dimanches sur la paix, notre insistance sur ce thème, sur la notion de justice, qu'elle a décidé maintenant, avant d'envoyer les élèves à la récré, elle leur dit, soyez des artisans de paix. Alors, pour tous les petits, elle dit, soyez des artisans de paix avant d'aller dans la cour de récré. Alors, je me dis, tiens, c'est intéressant. Alors, ceci pour dire que, il me semble, quand le projet est bien défini et qu'il essaye de prendre corps, de se traduire par des actes, bah, il devient lisible. Là, j'ai une dizaine de témoignages de gens qui sont extérieurs au monde Méno, qui sont entrés en contact avec l'Église et puis qui en ont reçu quelque chose et qui disent, ben voilà, quelque part, dans leur témoignage, on a l'impression qu'ils relève ce qu'on essaye de vivre. Alors, c'est vrai que si je vais être tout à fait honnête, là, j'ai fait une sélection un peu des bons témoignages. et il me semble que, c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que, en fait, il y a une composante tout à fait essentielle de tout projet d'église, c'est que c'est vrai qu'il présente ce qu'on veut essayer de vivre, on veut essayer de faire, mais que quelque part, c'est Dieu qui doit nous en donner la grâce pour le vivre et puis aussi pour combler les nombreux manques. J'ai fait quelques statistiques. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les chiffres, alors je fais des statistiques. Je voulais voir un petit peu, dire, bah tiens, finalement, on parle de tout ça, de témoignages, mais concrètement, comment ça se traduit dans la réalité en ayant le postulat, quelque part, quand chez nous, quelqu'un fait la demande de devenir membre et qu'il devient membre, il est quand même relativement intégré, parce que ça veut dire que on l'a rencontré plusieurs fois pour bien parler de ça, qu'on s'est mis d'accord, qu'on lui a donné une confession de foi, qu'on a discuté des points bloquants, et puis que, quelque part, souvent, il accepte un service qui va avec ça. Alors, début 2008, il y avait 42 membres actifs dans notre communauté, et ça représentait un listing de 65 familles. Alors, il y a des gens qui s'étaient déjà éloignés, mais qui sont toujours sur le listing. Si on regarde un peu ce noyau, en 5 ans, maintenant on est en 2012, Dans ces 42 membres actifs, il y a eu 4 décès, il y a eu 7 démissions, il y a eu 8 baptêmes dans ce pool de 65 familles, souvent des enfants qui ont grandi, qui ont demandé le baptême. Il y a eu 6 nouveaux accueils, donc des gens qui étaient déjà présents en 2008, mais pas membres et qui le sont devenus par la suite. Ce qui fait quelque part, de ce noyau, on arrive à peu près à 45 membres actifs aujourd'hui, mais avec 30% de renouvellement. C'est-à-dire ce noyau a évolué, s'est renouvelé de 30% en 5 ans, et globalement est resté à peu près stable, hein, les nouveaux baptêmes compensant les décès, les démissions, et les nouveaux accueils compensant les démissions. Et puis, après, moi, la partie de ce listing que j'avais, j'ai ajouté, tout au long de ces presque cinq années, les familles qui sont venues au culte et qui m'ont laissé leurs coordonnées. Alors, c'est quasiment jamais la première fois, mais c'est des personnes qui sont venues au moins 2, 3, 4, 5 fois au culte et puis qui, au bout d'un moment, laissent leurs coordonnées parce que soit ils empruntent un bouquin à la bibliothèque, ils laissent leurs coordonnées, parce que soit, on arrive à être en contact, ils donnent leurs coordonnées. Et donc, dans notre église urbaine, ça représente quand même 94 familles sur 5 années. Donc c'est quelque chose d'important. Et sur ces 94 familles, quand je fais le bilan aujourd'hui, il y en a 21 qui ont déménagé. Il y en a 45 qui viennent plus ou pas. Et il y en a 28 qui viennent, alors je dis régulièrement, chez nous ça veut dire une fois par mois. Une fois par mois, il y en a qui viennent un peu plus, mais au moins une fois par mois. Et sur ces 94 familles, il n'y a eu que 2 baptêmes. Deux personnes qui ont été baptisées et 8 nouveaux membres qui donc étaient déjà baptisés dans d'autres églises et qui ont été accueillis. Donc quelque part, 10 membres actifs. Alors, si on part un peu sur l'idée que dans une famille, il y a à peu près 1,5 adultes, on arrive finalement au bilan de dire, à ce stade, 10 personnes accueillies sur 140 adultes qui ont passé par l'église au moins 4-5 fois. Ça fait un ratio de 7%. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, comment on lit ces chiffres. Hein. Une réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, on est nul, hein, parce que 7%, enfin voilà, quand vous ramenez un 7 sur 20, c'est déjà pas terrible, mais un 7 sur 100, c'est, c'est pas génial. Quoi. C'est-à-dire 7% de ceux qui viennent au moins 2-3 fois deviennent membres après 2 ans et demi, en moyenne, puisqu'en moyenne, tous ceux-là, ils sont là depuis 2 ans et demi. Quoi. Donc ça met du temps quand même. Notre réflexion, c'était de dire, finalement, on est ce qu'on est. Et la réalité, c'est que devenir membre d'une église, c'est un projet engageant et que finalement, peu de personnes souhaitent franchir ce pas dans un temps relativement court. Et devenir membre, je crois que c'est vrai que c'est une décision mûre, réfléchie, construite, qui a besoin de temps et qui ne va pas au bout. Quand elle va au bout, ça a parfois besoin de beaucoup de temps. Je finis avec une anecdote. Lors de la semaine de prière du CNEF, il y avait deux pasteurs, donc on se réunit entre les différentes églises évangéliques, un pasteur d'une église baptiste et un pasteur d'une église évangélique libre qui prennent la parole. Bon, à ce tour de rôle, on donne des nouvelles des églises. Et puis ces deux-là, ils disent chez nous, il y a beaucoup de papillons. C'est des gens qu'on voit un moment, puis on ne les voit plus, puis on les revoit, et puis ils disent priez pour qu'ils se fixent. Alors, moi je me suis dit d'abord, ça traduit bien la réalité que les gens ne nous appartiennent pas. Et je trouvais ça un peu gonflé de les appeler des papillons, parce que j'ai l'impression que je suis pasteur, je ne suis pas en train d'essayer de capturer, je ne suis pas à la chasse aux papillons, quoi. C'est pas deux métiers différents pour moi, mais bon. Et puis, il me semble que ça traduit aussi le fait que finalement, beaucoup de gens observent la vie des églises, mais n'ont pas forcément envie d'y entrer pleinement. Et je pense que la responsabilité est partagée à ce propos. Parce que nos églises ont bien souvent du mal à incarner le beau projet qu'elles prêchent régulièrement, dimanche après dimanche. Et je crois que les personnes extérieures y sont vraiment sensibles. Et dans l'autre sens, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent avec un lot d'attentes et d'exigences énormes à l'égard de l'église. Et c'est vrai que j'en rencontre parfois, je leur dis, écoutez, à un moment là... Désolé, je pense que vous n'allez pas rester parce que c'est pas possible. Vos exigences ne pourront jamais être satisfaites. Il va falloir que vous fassiez un pas. Quoi. Mais quelque part, quand même, lorsque l'Église nourrit un projet qui a besoin de Dieu pour chef, et lorsqu'une personne nourrit un projet personnel qui a aussi besoin de Dieu pour chef, alors je me dis quand même qu'il y a une rencontre qui qui est possible et qui peut amener à une vraie intégration avec le temps. Je vous laisse pour finir, c'est la troisième fois que je dis pour finir, mais maintenant cette fois-ci c'est vrai. ces paroles de Dietrich Bonhoeffer, issues de son ouvrage de la vie communautaire. Il dit « Le but de toute communauté chrétienne apparaît ainsi clairement. Elle nous permet de nous rencontrer pour nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut. Voilà ce que Dieu a en vue lorsqu'il nous rassemble. C'est cette bonne nouvelle qui est à la source du besoin que les chrétiens ont les uns des autres. Voilà quelque chose qui peut-être nous éclairer pour essayer de définir notre but, qui doit être celui de nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut, celui de le traduire en action, en structure, en mise en œuvre qui reflète cette réalité. Et puis celui de laisser aussi Dieu à la place qui est la sienne, qui est celle du chef. Ce même Dietrich Bonhoeffer a dit qu'il ne faut pas aimer l'idéal de l'Église plus que l'Église elle-même. Et c'est avec cette remarque que je vous laisse.